qui on va parler ce matin pendant 4 dimanches de suite? J'entends rien. De Ruth. Ruth. En Ruth 3, verset 11, il nous est dit que Ruth était une femme de valeur. La principale caractéristique que la Bible nous a laissée par rapport à cette femme, c'est que c'était une femme de valeur. Est-ce que vous aimeriez que la Bible parle de vous comme d'un homme, comme d'une femme de valeur? J'avoue que ça serait loin de me déplaire que la Bible puisse dresser un tel portrait de moi. En quoi Ruth est une femme de valeur? Pourquoi la Bible peut dire que Ruth est une femme de valeur? C'est ce que je vous invite à voir ensemble ce matin, à travers le chapitre 1 et les dimanches qui vont suivre, avec tour à tour Armel, Sébastien et Benjamin, avec les chapitres suivants. 4 chapitres dans ce livre de Ruth. Et ce matin, nous allons nous plonger dans le premier chapitre. Et pour cela, je vous invite à lire d'abord les 5 premiers versets. Donc Ruth 1, versets 1 à 5. Le livre de Ruth se retrouve juste après le livre des juges dans l'Ancien Testament. Ruth 1, du verset 1 au verset 5. À l'époque où les chefs, ou les juges, gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémi et ses deux fils Mahlon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Il parvint en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Comme l'indique le verset 1, notre histoire se déroule au temps des juges. Une période qui suit la conquête du pays d'Israël par Josué jusqu'à l'onction du premier roi d'Israël, le roi Saül. Une période qui a été l'objet d'une prédication de Sébastien fin d'année dernière. On a un peu vu un résumé global de cette période des juges. C'est une des périodes les plus sombres de l'Ancien Testament, où trop souvent l'idolâtrie, l'anarchie ont régné au sein du peuple d'Israël, avant que l'Éternel ne délivre son peuple par l'intermédiaire d'un juge. Certains sont connus, comme Samson, Gédéon, Déborah et d'autres encore. La Bible résume cette période à 4 reprises par cette formule. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, à l'image d'Élimélec dans notre texte, qui face à la famine, décide de prendre femme et enfants et de partir en Moab. Tu peux passer le slide, Timothée ? En Moab, donc, dans une région païenne, loin d'Israël, loin de Bethléem, vous voyez un peu le parcours qu'ils ont dû faire. La famille d'Élimélec quitte donc Bethléem, qui signifie littéralement la maison du pain, à cause d'une famine, qui souvent, dans la Bible, évoque un jugement de Dieu, sans qu'on puisse dire si c'est vraiment le cas à ce moment-là ou pas. Il n'y a pas d'indication très claire et très nette par rapport à cela. Élimélec et sa famille quittent Bethléem pour le pays de Moab, dont l'origine n'est pas très reluisante. Souvenez-vous, cette nation tire ses racines de la relation incestueuse entre les filles de Lot et leur père, qui a donné naissance à 2 enfants, prénommés Moab et Ben-Ami. Et ces deux fils sont les ancêtres des peuples Moabites et des Ammonites, deux peuples qui, tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, vont être en guerre permanente, plus ou moins, avec le peuple d'Israël. On pourrait croire, à première vue, peut-être que le choix d'Élimélec est neutre et vise surtout à protéger sa famille par rapport à cette famine. Mais il n'en est rien, en fait. En décidant de partir pour Moab, Élimélec a choisi délibérément d'aller vers un peuple idolâtre, vers un peuple païen. Il faut savoir par exemple que les Moabites offraient des enfants en sacrifice à leur divinité. On en voit un exemple dans 2 Rois 3, versets 26 et 27. Se rendre chez les Moabites, c'est forcément choisir la direction opposée à Dieu. C'est forcément un mauvais choix. Élimélec prend donc sa famille et s'installe dans l'une des pires régions en termes d'influence spirituelle qui pouvait être à cette époque-là. Alors peut-être qu'Élimélec a pensé au bien-être physique, matériel de sa famille. mais il n'a sûrement pas pensé au bien-être spirituel à ce moment-là. Sûrement pas. Il aurait sans doute été préférable de rester dans le pays, de se confier en l'Éternel, plutôt que d'émigrer, surtout, en particulier pour le pays de Moab, un pays idolâtre, un pays éloigné de Dieu, un peuple éloigné de Dieu. Quelque temps plus tard, comme nous le dit le texte, Elimelech décède. Et malgré ce décès, aucun retour en Israël n'est envisagé de la part de Noémie et de sa famille, de ses enfants. Au contraire, Noémie décide de s'installer durablement en Moab, comme le mariage de ses deux enfants, de ses deux fils, avec des femmes moabites l'atteste. Ce type de mariage étant, soit dit en passant, interdit par la loi d'une certaine manière, parce que Deutéronome 23, verset 4 nous dit « Les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de Dieu, jamais ». Ce premier coup dur n'a pas fait réfléchir Noémie. Et 10 ans plus tard, ses deux fils, Mahlon et Kilion, qui signifient littéralement maladie et fragilité, pas les meilleurs prénoms, meurent eux aussi à leur tour. Le constat est lourd. Noémie est seule. Plus de mari, plus d'enfants. Noémie est seule. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez imaginer plus douloureux ? 3 funérailles en 10 années, et elle se retrouve seule. Cette histoire a à peine commencé, elle commence tellement mal. En 5 versets, la Bible résume un drame de plusieurs années. Famine, exil, mort, isolement. Le résultat ? 3 veuves, sans mari et sans enfant. La situation semble bouchée. C'est une histoire sans avenir qui commence. Et pourtant, il y a une suite à ce texte que je vous invite à prendre maintenant, du verset 6 au verset 22, en poursuivant notre lecture du chapitre 1. Lorsque Noémie apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, elle se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'a été pour ceux qui sont morts et pour moi-même, qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai un mari cette nuit même et j'en aurai un des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela vous remarier ? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Et Noémie lui dit, « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple, et c'est Dieu. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Là où tu mourras, je mourrai aussi et je serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là Noémie ? » demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie d'ici comblée et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongée dans l'affliction ? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revint des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. » Après avoir appris que la situation s'est améliorée en Israël, qu'il y a de nouveau du pain, que la famille est finie, terminée, Noémie décide d'y retourner avec ses deux belles-filles. Ces trois femmes partent ensemble. Mais le texte nous montre qu'elles n'envisagent pas du tout l'avenir avec le même regard. Ce nouveau départ est envisagé très différemment par ces trois femmes. D'abord pour Orpa, c'est l'inquiétude qui est au centre de son regard sur l'avenir. Ruth et Orpa accompagnent Noémie dans ce voyage de retour vers Israël. Elles sont toutes les deux attachées à Noémie. Aucune ne souhaite la laisser partir seule. Le lien d'affection entre elles est suffisamment fort pour que ces belles-filles ne veuillent pas se séparer, alors que rien n'obligeait Ruth et Orpa à suivre leur belle-mère, assure Noémie. Comme quoi, il existe de belles relations entre belle-mère et belle-fille. En tout cas, dans la Bible, on en retrouve, et j'espère qu'on en retrouve aussi dans vos foyers. Les malheurs qu'elles ont vécus ont peut-être sans doute sûrement même soudé leur relation entre elles. L'attitude d'Orpa et de Ruth à l'égard de Noémie est belle, mais inégale, comme la suite du texte va nous le dire, nous le montre. À un moment donné sur le chemin qui mène vers Bethléem, Noémie se tourne vers ses belles-filles pour leur dire d'arrêter de la suivre. Et par ses paroles, Noémie veut les faire quelque part redescendre sur terre. Elle veut que ses belles-filles reconsidèrent leur choix face à des éléments tangibles. Noémie veut leur montrer qu'elles n'ont rien, mais absolument rien à gagner à la suivre. Parce qu'elle n'a rien à leur offrir. Aucune perspective, aucune protection, aucune sécurité pour elles. Elles ont déjà connu des épreuves, comme on l'a vu au début de ce texte. Mais elles prennent le risque d'en vivre bien d'autres en suivant Noémie jusqu'à Bethléem. Parce que suivre Noémie jusqu'à Bethléem, ça voulait dire sans doute travailler dur pour subvenir à leurs propres besoins, risquer d'être le jouet des Israélites. Pas oublier, ce sont des femmes, des étrangères, sans protection, veuves. Ça voulait dire aussi un déracinement difficile peut-être à vivre, pour l'une comme pour l'autre. Et pour bien se faire comprendre de ces belles filles, Noémie met en avant la loi du Lévira, une loi qui nous semble étrange à notre époque, mais une loi qui était forte à cette époque-là, qui obligeait en fait un frère, le beau-frère, à épouser la veuve de son frère mort, sans enfant, afin de perpétuer le nom de ce dernier. Il est évident que cette loi ne pourra pas s'appliquer dans le cas de Noémie. Elle n'a plus de mari, elle n'a plus aucun enfant. Pas possible. Il n'y a pas de perspective réjouissante pour ces belles filles si elles accompagnent Noémie. Et c'est ce que Noémie veut vraiment leur faire comprendre, qu'elle assène à plusieurs reprises. Et devant cet argumentaire, et malgré les sentiments qu'elle éprouve pour Noémie, Orpa, dans les larmes, décide de quitter Noémie pour retourner en Moab, au verset 14. La décision d'Orpa est prise de manière logique. Elle a pesé le pour et le contre, et logiquement, elle a décidé de retourner à Moab. C'est l'inquiétude concernant son avenir qui a poussé Orpa à cette décision. Et ironiquement, le nom d'Orpa signifie justement « celle qui tourne le dos ». Elle n'est pas prête à vivre des épreuves supplémentaires, et on peut la comprendre. Elle n'est pas prête à vivre des épreuves supplémentaires. Elle est inquiète et choisit donc l'option la plus simple, la plus facile, même si cela signifie aussi tourner le dos à Dieu, à l'Éternel. Orpa se différencie à ce moment-là de Ruth. Orpa regarde vers l'arrière, alors que Ruth, on va le voir, va regarder vers l'avant. On n'entendra plus parler d'Orpa, alors que Ruth va laisser une trace indélébile dans l'histoire du salut. Noémie maintenant. Noémie, c'est l'amertume qui la ronge. Noémie est celle des trois qui est la plus touchée par les événements tragiques qui sont survenus. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Et tous ces événements l'ont rendue amère vis-à-vis de Dieu. Si son expérience évoque celle de Job, sa réaction ressemble plutôt à celle de la femme de Job, qui disait « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Job 2, verset 9. Son attitude, l'attitude de Noémie vis-à-vis de ses belles-filles, qu'elle décourage de vouloir la suivre, témoigne déjà de son amertume vis-à-vis de Dieu. Je crois que c'est le pire exemple d'évangélisation qu'on ait dans toute la Bible. Au lieu de les encourager, d'encourager ces belles filles à venir en Israël, donc à poursuivre quelque part leur cheminement spirituel, Noémie leur dit de retourner à Moab, de retourner vers les divinités païennes, de tourner le dos à l'Éternel. Au verset 8, déjà, elle affirme que Dieu est bon. Elle dit « Que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. » Mais les propos qui suivent montrent qu'en fait, c'est juste une formule toute faite, une formule faite de religiosité, sans aucune profondeur dans son esprit. Elle invoque Dieu pour ses deux belles filles, mais au fond de son cœur, Noémie ne croit plus en la bonté de Dieu. Elle n'y croit plus à ce moment-là. Dans ses paroles au verset 11, Noémie souligne qu'elle ne peut offrir aucun espoir à Ruth et Orpa. Elle dit « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi ?» Aucun espoir. Et elle montre par là qu'elle ne compte absolument pas sur la bienveillance de Dieu, sur les bénédictions et la protection de Dieu. Elle n'y croit plus à ce moment-là. La suite nous le montre encore davantage, comme au verset 15, où Noémie invite carrément Ruth à repartir vers ses dieux et montre donc son peu de considération pour l'Éternel. Elle met finalement l'Éternel au même niveau que les divinités païennes des Moabites. On pourrait paraphraser ses paroles en disant « Retourne à tes dieux, ils ne sont ni meilleurs ni pires que le mien. » Ce sont des paroles terribles. Elle dit à Ruth et Orpa que ça ne sert à rien de la suivre en Israël. Au final, pour Noémie, rester en Moab et continuer à rendre un culte à des divinités païennes ou aller en Israël pour connaître l'Éternel, ça revient au même. C'est comme si ce matin, je vous disais « Mais pourquoi vous êtes levé ? Vous auriez pu rester couché. Après tout, vous avez bossé toute la semaine. Ou à la limite, aller faire un peu de sport. Regarder la télé, téléfoot ou je ne sais quoi ce qui passe le dimanche matin. Pourquoi vous êtes venu ici, après tout ? Ça ne fait aucune différence d'être ici ou pas. C'est ni mieux ni pire que de venir à notre culte pour adorer notre Dieu, pour être enseigné par lui. Noémie est décourageante au possible pour ces deux belles filles dans leur cheminement spirituel. Et cette attitude de découragement envers ces deux belles filles s'accompagne d'une amertume terrible envers l'Éternel, envers Dieu. Au verset 13, elle dit « Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. L'Éternel est intervenu contre moi. » Dans l'esprit de Noémie, Dieu n'a pas simplement été un témoin qui a laissé faire les choses, mais elle l'accuse d'être le principal responsable de sa situation. À son retour à Bethléem, malgré le fait que toute la ville l'accueille chaleureusement, son amertume est toujours aussi forte dans son cœur. Elle réitère son accusation envers Dieu, au verset 20. « Le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. » Elle poursuit en mettant tout le poids de la responsabilité de sa situation sur Dieu, qu'elle ne considère plus comme digne de confiance. Au verset 21, « L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction. » Face à cette situation tellement malheureuse, Noémie a trouvé le coupable idéal. Et ce coupable, c'est Dieu. C'est Dieu qui est responsable de son malheur. Bien sûr, il ne faut pas lui rappeler que c'est elle, avec son mari, qui est partie de Bethléem. Et ses propos sont faux. Elle dit « Je suis partie d'ici comblée. » Est-ce qu'elle a oublié la famine qui l'a poussée au départ ? Elle affirme « L'Éternel s'est prononcé contre moi. » Si c'était vrai, pourquoi Ruth est-elle à ses côtés ? Surtout le reste de l'histoire qu'on verra lors des prochaines prédications montre qu'elle s'est trompée. Non, Dieu ne s'est pas prononcé contre elle. Dieu est encore avec elle, malgré tout. Et le troisième personnage, c'est Ruth. Et Ruth, elle fait le pari de la foi. Face aux mêmes arguments qu'Orpa, Ruth fait un choix différent. Elle refuse de retourner en Moab vers la divinité de son peuple pour se tourner de façon définitive et claire vers l'Éternel, le seul Dieu, l'unique. Elle fait à ce moment-là l'une des plus belles déclarations de foi qu'on trouve dans l'Écriture et qui constitue le point central de ce chapitre. Au verset 16, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Et cette déclaration de foi Elle, dans sa déclaration de foi, elle affirme un triple attachement. Son attachement à Noémie d'abord, sa belle-mère. Elle veut rester solidaire avec elle, l'accompagner. Son attachement à Israël, le peuple de l'Alliance. Elle, qui en tant que Moabite était une ennemie d'Israël, veut faire partie du peuple élu. Son attachement à Dieu, enfin. Elle rejette toutes les divinités païennes pour se tourner vers l'Éternel, vers le seul vrai Dieu. Orpa et Ruth ont eu le même parcours jusque-là. Et pourtant, à ce moment-là, elles prennent une décision différente. Orpa s'inquiète pour l'avenir, alors que Ruth fait le pari de la foi. La foi de Ruth est marquée par plusieurs aspects. D'abord, le renoncement. Ruth fait cette déclaration de foi en sachant que la vie qui l'attend avec Noémie ne sera pas simple et pas aisée. Elle a dû renoncer à plusieurs choses en décidant d'accompagner Noémie à Bethléem. Elle a dû renoncer à la possibilité de se marier. Elle savait que c'était presque impossible qu'une Moabite se marie avec un Israélite. En renonçant à un mariage, Ruth renonçait aussi à la sécurité financière qui reposait uniquement sur le mari à ce moment-là. Elle renonçait à un certain statut social et était vouée à porter l'étiquette de veuve. Il faut vous imaginer, une veuve étrangère en Israël n'était sûrement pas le statut rêvé. Elle renonçait aussi à la possibilité d'avoir des enfants, bien sûr. Et enfin, elle renonçait aussi à son bien-être pour se préoccuper du bien-être de sa belle-mère. Le choix de Ruth n'est pas motivé par un intérêt quelconque. Le choix de Ruth est marqué par le renoncement sur ses propres prérogatives. Le courage aussi. Un commentateur a dit « La foi sans courage n'est rien ». Ruth a justement le courage de la foi. Au lieu de s'attacher au raisonnement humain d'une garantie, comme l'a fait Orpa, elle prend le risque de la foi. La fermeté, malgré le peu d'espoir, malgré les paroles décourageantes de Noémie, malgré le départ d'Orpa, malgré le fait que Noémie dénigre Dieu, Ruth fait un choix ferme pour l'Éternel. L'absolu, elle est absolue dans sa foi. Deutéronome 23, verset 4, que nous avons lu auparavant, qui nous disait que aucun Moabite ne pourrait entrer dans le peuple de Dieu, qui interdisait donc la présence des Moabites dans l'assemblée juive pour toujours. Sa foi en Dieu, la foi de Ruth en Dieu, sa conversion au Dieu d'Israël surpasse cette loi. Et enfin, l'invocation de Dieu. Ruth invoque Dieu au verset 17. « Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Elle a vécu presque la même souffrance que Noémie, mais n'en tire pas les mêmes conclusions et n'a pas le même regard vers Dieu. Elle l'invoque encore. J'espère que notre foi à chacun ce matin est marquée par ces mêmes éléments. Le renoncement, le courage, la fermeté, l'absolu et l'invocation de l'Éternel. Parce que ces éléments devraient être au fondement de notre foi en Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Cette décision de Ruth est un événement non seulement ô combien important dans sa vie personnelle, dans son histoire, mais aussi ô combien important dans l'histoire universelle du salut, sans que Ruth ne s'en doute un seul instant à ce moment-là. Et on le verra dans les prochaines prédications, encore une fois. Ruth a fait le pari de la foi et a donc poursuivi son chemin avec Noémie jusqu'à Bethléem, où elles sont arrivées à la période de la moisson de l'orge, c'est-à-dire courant avril. Ce texte, je crois, nous laisse une série de questions pour nous ce matin. Première question que je vous pose. Qu'auriez-vous dit à Orpa ou à Ruth? Comment réagir devant un frère ou une sœur qui vit dans l'épreuve et qui tombe dans l'inquiétude, dans l'amertume? Que lui dire? La première chose à dire, la première chose à faire, c'est sûrement de ne rien dire. C'est de prendre dans les bras et de consoler. Une personne qui souffre a besoin de réconfort et pas de discours. Le réconfort et pas forcément les discours. Les premiers mots à dire, ce n'est pas forcément asséner Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais peut-être plus, Romains 8, 39, « Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur ». La personne qui souffre a souvent plus besoin de savoir qu'il est toujours l'objet de l'amour de Dieu plutôt que de comprendre la raison de son épreuve, la raison de ses difficultés. Essayer d'élargir son champ de vision aussi. Le simple fait de vivre est un trésor. Noémie, par exemple, ne revient pas vide, mais accompagnée de Ruth. Elle est accueillie par ses proches et ses amis sont encore là. Elle aurait pu élargir son champ de vision. Regardez vers l'avenir pour arrêter de se tourmenter sur le passé. Des opportunités nouvelles s'ouvrent à Noémie. Elle ne sait pas encore à quel point les choses vont bien tourner pour elle. Encouragez aussi à la soumission à Dieu, à l'image de Job, qui répondit avec sagesse à sa femme et dont il est dit qu'au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Job 2, verset 10. Deuxième question que ce texte nous lance, ou m'a lancé en tout cas. De laquelle de ces femmes sommes-nous les plus proches ? De laquelle de ces femmes sommes-nous les plus proches ? Face à cette même situation tragique, le décès de leur conjoint et des membres de leur famille, ces trois femmes ont chacune une réaction différente. Comme le dit un commentateur, les attitudes des trois veuves sont bien différentes. Noémie, privée d'un mari et d'une famille, s'afflige. Orpah s'en va, choisissant la ligne de conduite la plus facile. Par contre, Ruth s'attache, restant fidèle à Noémie. Orpah a laissé parler son inquiétude. Noémie est tombée dans l'amertume. Ruth a fait le pari de la foi. Comment expliquer trois réactions si différentes face à ces mêmes événements tragiques ? Je ne vais pas faire de grande psychologie humaine, mais je crois qu'on peut dire que les réactions d'Orpah et de Noémie sont humaines, normales, logiques face à cette situation. Alors que la réaction de Ruth est en fait anormale, illogique. Ce n'est pas une réaction humaine, normale ou habituelle qu'on pourrait avoir. Quelle est notre propre réaction face à nos souffrances, nos épreuves ? La réaction humaine et normale, c'est l'inquiétude, l'amertume. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ? Où es-tu, Dieu ? Que fais-tu ? Es-tu juste ? Est-ce que ce ne sont pas des sentiments, des questions que vous avez déjà posées dans votre vie ? Alors, je ne suis pas là pour vous lancer la pierre. C'est aussi des questions que je me suis posées dans ma propre vie. C'est aussi des réactions que j'ai eues dans ma propre vie. Mais je crois que la grande leçon de ce passage, c'est le comportement de Ruth face aux mêmes événements tragiques. Elle a fait le pari de la foi. Et à vue humaine, il n'y a rien de logique, de compréhensible à ce pari de la foi, à une telle réaction. Ruth nous apprend là une précieuse leçon. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes peut-être d'une certaine manière appelés à des réactions anormales, à des réactions illogiques, à des réactions qui ne sont pas humaines, mais divines quelque part, face aux événements tragiques qu'on peut vivre. Pourquoi ? Parce que peut-être c'est de cette manière que nous pourrons honorer Dieu. Parce que c'est aussi peut-être de cette manière que nous pourrons réellement avoir un impact dans la vie de ceux qui nous entourent. Le texte nous parle de belle-mère. Et je n'ai pas pu me résister au plaisir de demander à ma propre belle-mère de venir devant pour vous raconter comment elle est venue à Dieu. Parce que je trouve que ce témoignage est vraiment un exemple flagrant de comment une épreuve peut être une manière de montrer la puissance de Dieu.
Bonjour à chacun. Il y a un peu plus de 34 ans, je pensais avoir tout pour être heureuse. Un mari qui m'aimait et que j'aimais, un travail qui m'épanouissait, une petite Emmanuelle qui avait 2 ans et Florence que nous attendions. Pourtant, il me manquait l'être le plus précieux, Dieu lui-même. J'ai toujours cru à son existence. Comment ne pas y croire lorsqu'on contemple la beauté de la création ? La nature crée la splendeur et l'intelligence de Dieu. Mais je n'avais pas d'intimité avec lui. Et puis un jour, ma profession m'a conduite à visiter à domicile un foyer. Un de ses membres était malade et nécessitait régulièrement des soins. Barthélémy souffrait d'une insuffisance respiratoire. Il était trachéotomisé et sous oxygène. Au lieu d'être aigri par sa maladie, il était souriant, paisible. La Bible était toujours ouverte, aussi bien dans sa chambre qu'à la cuisine. Et j'ai très vite compris que c'était de ce livre qu'il puisait sa force. Il n'avait pas beaucoup de souffle, mais quand il me parlait de son Seigneur, rien ne pouvait l'arrêter de parler. Lorsqu'il était hospitalisé ou bien en maison de convalescence, Il parlait tout le temps de son sauveur, aux malades qu'il rencontrait ou au personnel soignant. Beaucoup ont été touchés par son témoignage. Il parvenait à remercier Dieu pour cette épreuve qui lui avait permis de se tourner vers lui. Il m'a donné envie de lire la Bible et c'est comme cela que j'ai découvert tout l'amour que Dieu avait pour moi.
Merci Dominique. L'épreuve, comme peut-être aussi un moyen où nous pouvons réellement avoir un impact dans la vie des autres. C'est ce que Ruth peut montrer et c'est le témoignage de Dominique qui va dans ce sens-là. Et peut-être qu'il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait donner entre nous ce matin. Troisième question que nous laisse ce texte, question finale. Sommes-nous prêts au même renoncement que Ruth ? Dieu avait un plan, une destinée pour la vie de Ruth. Ses renoncements, sa détermination ont permis à Ruth d'entrer pleinement dans ce plan. À travers sa déclaration de foi, Ruth renonce à son passé, à ses racines, à ses valeurs, à toutes les influences qui ont fait d'elle la femme qu'elle est, et déclare « Je ne veux plus de cette vie. Je veux quelque chose de plus. Je veux quelque chose de mieux. » Elle fait cette alliance avec Dieu, sans aucune espérance, aucun espoir d'obtenir la promesse de la bénédiction. À ce moment-là, Boaz est bien loin. Et pourtant, Ruth fait le choix du renoncement pour aller à la rencontre de Dieu et laisser Dieu accomplir son plan dans sa vie. Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons tous, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et pas uniquement pour Ruth. Dieu veut aussi nous utiliser pour l'établissement de son royaume ici-bas. Il veut aussi que nos vies servent à faire connaître son amour, la bonne nouvelle du salut. Mais pour accomplir ce plan, il peut arriver que Dieu nous demande de renoncer à certaines choses. Comme Ruth a dû le faire. Dieu peut nous demander de quitter une situation confortable, de mettre fin à une relation, de pardonner ou encore de sacrifier quelque chose qui a pris trop d'importance dans nos propres vies. Est-ce que nous serons prêts au même renoncement que Ruth, en étant déterminés et résolus dans nos choix et nos décisions, ou serons-nous comme Orpa, refusant de nous séparer de telle ou telle chose ? Le renoncement est souvent un catalyseur pour l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qu'un catalyseur ? C'est l'élément qui sert à déclencher une réaction chimique. Sans catalyseur, la réaction chimique n'a pas lieu et tous les autres éléments de la réaction restent intacts. Sans catalyseur, il est difficile de déclencher une réaction chimique. Eh bien, sans renoncement, il est difficile de déclencher le plan de Dieu dans nos propres vies et d'accomplir la destinée que Dieu attend pour nous. L'exemple de Charles Studd illustre parfaitement cette notion. Cet homme qui a vécu au XVIIIe siècle à peu près, fils d'un richissime planteur de thé et champion de cricket, il a renoncé à tout un héritage et au succès sportif lorsqu'il s'est converti à 24 ans pour réaliser le plan de Dieu dans sa vie et devenir missionnaire d'abord en Chine, puis en Inde et enfin en Afrique. Il est le fondateur de la mission WEC, pour ceux qui connaissent. Je posais une question en introduction. En quoi Ruth est-elle une femme de valeur ? Pourquoi la Bible nous dit qu'elle est une femme de valeur ? Ruth est une femme de valeur, entre autres, à cause de sa foi. Une foi qui se remarque par sa réaction anormale et illogique dans l'épreuve. Une réaction divine, pas humaine. Dieu qui agit. Une foi qui est marquée par son renoncement pour laisser Dieu réaliser son plan à travers elle. Ma prière est que chacun d'entre nous, nous puissions être habités par une telle foi dans nos propres vies. C'est un grand défi, mais je crois que nous avons un grand Dieu. Amen.
Merci Stéphane. Est-ce que ça vous dirait de prendre une petite...